J'accueille aujourd'hui une développeuse qui a développé un jeu narratif qui s'appelle Imperial Grace, qui va bientôt sortir et qui a lancé une campagne Kickstarter pour aider au financement de ce jeu vidéo. Donc Ayael va nous parler de ce projet, de son projet. On va partir sur la première question habituelle. Pourrais-tu te présenter? Présente-toi comme si tu devais te présenter en soirée.
Donc mon nom de plume c'est Ayael, parce que j'utilise ce nom-là sur Internet depuis des années, mais vraiment genre depuis que j'utilise Internet, c'est comme ça. Et en fait, en plus d'être développeuse, je travaille à plein temps dans l'éducation nationale. Et donc du coup, j'ai pas spécialement non plus envie que les élèves tombent sur mon travail ou des choses comme ça, j'aime bien séparer les deux. Donc c'est pour ça que je préférais utiliser un nom de plume plutôt que mon vrai nom de famille pour faire la création de jeux vidéo. Mais voilà, sinon, je suis très passionnée. Je pense qu'il se passe tellement de choses dans le monde que j'avais des choses à raconter et que c'est pour ça que j'ai eu envie de créer des jeux vidéo. Voilà.
Ok, moi c'était une question classique que je pose également. Pourquoi est-ce que tu fais des jeux vidéo?
En fait, à la base, j'ai commencé à écrire. Et puis, donc écrire genre des romans. Et puis, en fait, il y avait un truc qui n'allait pas. Je sentais trop solitaire, en fait, comme activité. Et j'ai découvert les jeux narratifs. Et je me suis vraiment là, me dire, ah ouais, on travaille avec une équipe. Donc, on raconte quand même une histoire. Mais en plus, les gens, ils font partie de l'histoire qu'on raconte. Ils peuvent faire des choix, ils peuvent l'influencer. Donc, en fait, je peux refaire à partir de la même histoire, avoir 10 fins différentes et raconter en fait 10 histoires différentes. Et donc du coup, ça m'a vachement plu. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire des jeux narratifs plutôt que d'écrire.
Ok. On va parler de ton jeu. Mais avant ça, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Quel était ton parcours professionnel et puis ton parcours de développeuse également. Par quoi tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer dans la création de jeux vidéo, création en développement, à passer de joueuse à développeuse.
Alors moi du coup, comme j'ai dit, j'ai un autre travail à plein temps à côté pour l'instant, donc j'espère pouvoir un jour vivre du jeu vidéo. Mais du coup, tout mon parcours professionnel, ça a été lié à l'éducation nationale, donc les 5 ans d'études et tout ça pour devenir professeur. Et par rapport aux jeux vidéo, en fait, c'est que quand j'étais à la fac, j'aimais beaucoup un jeu en ligne avec plein de microtransactions, un jeu narratif avec plein de microtransactions. Et ça me frustrait beaucoup, en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à me retourner vers les jeux anglais. Mais l'offre de jeux narratifs française, elle est vraiment presque inexistante, surtout en termes indé. Donc du coup, j'ai commencé en fait avec mes petites mains à apprendre à coder. Donc je savais déjà quand même un peu écrire. Mais voilà, tout ce qui est codage, UI design, marketing, tout ça, j'ai tout appris en même temps, en parallèle que mes études, dans l'idée de créer un projet. Alors après, je ne sais absolument pas dessiner, donc j'ai commencé à recruter des gens pour m'aider sur les domaines où vraiment je ne me sentais pas de développer toute une nouvelle set de compétences, donc notamment tout ce qui est musique ou dessin, où là je suis vraiment incapable de le faire moi-même. Et puis petit à petit, il y a eu des gens qui ont cru en mon projet, qui m'ont aidé, qui ont emmené leurs compétences, et voilà où j'en suis aujourd'hui.
Ok, et sans plus attendre, est-ce que tu peux nous pitcher ton projet maintenant?
Et du coup, Imperial Grey, c'est un jeu médiéval de romance politique. Voilà, c'est Game of Thrones en version jeu narratif. Donc, c'est-à-dire qu'on incarne l'impératrice de Kalidia, dont son père vient juste de mourir. C'est la seule héritière légitime, mais on est quand même sur des successions plutôt masculines normalement. Donc, elle doit vraiment gouverner son pays avec toutes les crises qu'ils vont traverser. Donc, c'est un jeu où il y a vraiment beaucoup de choix, beaucoup de dilemmes notamment, parce que j'aime vraiment placer les joueurs face à des choix où il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il y a juste une solution plus ou moins efficace en fonction de ce que sont nos valeurs. Et voilà, et donc elle doit survivre à tous ses détracteurs, à tous les complots, et faire en sorte que son pays prospère.
D'accord. Je regarde la question. La question que j'allais te poser, quel jeu, tu faisais référence à un jeu tout à l'heure, un jeu avec beaucoup de microtransactions, tu voulais pas le citer ou...
Oh si, non, mais ça me dérange pas. Ce sont tous les jeux, donc notamment les jeux Beemove, donc il y a Amour Sucré, Eldaria, Moonlight Lover, tout ça qui sont assez connus en France. Et en fait, même presque tous les jeux mobiles qui sont traduits en français. Donc là, j'ai plus trop les noms qui viennent en tête, mais voilà, il y a presque que ça en France en fait, en termes de vraiment jeux purement romance narrative, style visual novel.
Ok, et du coup, tu fais éditer ton jeu ou distribuer ton jeu via Abedin Bridge?
Ouais, parce que justement, c'est mon premier projet commercial. Donc, j'ai sorti deux jeux gratuits avant. Mais là, du coup, on est vraiment sur un côté administratif qui est pénible. Parce que en tant qu'indépendant, genre auto-entrepreneur, on ne peut pas vraiment dire les dépenses qu'on fait. Et moi, je dois payer en pourcentage le reste de ma team, tout ça. Donc, ce n'est pas du tout compatible avec le statut d'auto-entrepreneur. Donc, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Et à part créer une entreprise, mais ça coûte énormément d'argent et pour quelque chose qu'on ne sait pas encore où ça va nous mener. Et c'est là que je suis tombée sur Abiding Bridge. Et en fait, c'était exactement ça qu'il nous fallait. C'est quelqu'un qui s'occupe de tout l'aspect administratif, qui nous laisse complètement la liberté créative derrière et qui permet, en fait, comme c'est eux qui récupèrent l'argent, ils permettent après de redonner toute la part de rev share à chaque membre de la team en fonction du contrat qui a été défini. Et du coup, ça nous enlève une énorme épine du pied. Et c'est, enfin, voilà. Pour moi, c'était vraiment parfait. En plus de ça, ils sont vraiment top en termes d'accompagnement. Grâce à eux, j'ai eu plein d'opportunités, notamment en termes de marketing. On est allé à Animasia, tout ça nous a coûté quand même vachement moins cher que si on y allait tout seul. Et c'était vachement plus convivial parce qu'on était avec plein d'autres devs et tout. Donc voilà, meilleure décision administrative.
Ok. Là, j'ai failli y aller d'ailleurs à Animasia. C'était il y a pas longtemps. C'était
Oui,
il y a un
c'était
mois.
en octobre.
Ah non,
C'était
c'était.
en
Ah non,
octobre.
ok. Non, je confonds.
Ouais.
Mais super. D'ailleurs, Abedin Bridge, donc Elisabeth, a déjà publié un jeu qui est passé dans le podcast. En fait, on va dire les développeurs sont passés par le podcast également. Et effectivement, avec le statut d'artiste, donc sans créer de
Ouais, c'est ça.
société, on peut toujours créer des jeux vidéo en team et répartir les revenus avec ce principe-là. On a une question dans le chat, Yoku Quest, qui pose la question, quelle serait la durée de vie du jeu?
Alors en fait, pour le jeu narratif, c'est très difficile à dire parce que ça dépend comment la personne elle joue, dans le sens où déjà, ça dépend beaucoup de temps qu'elle met à lire, parce qu'il y a beaucoup de lectures, le temps qu'elle met à prendre ses choix. Parce que des fois, moi, j'aime beaucoup regarder les streamers jouer au jeu, et des fois, la démo, ils la font en 2 heures, et des fois, ils la font en 4 heures, quoi. C'est vraiment difficile. Je pense qu'on est au moins sur au minimum 15 heures de jeu pour une seule run. Après, c'est un jeu qui est fait pour être rejoué, pour tester différents choix, différentes romances et tout ça. Donc voilà, je dirais entre 15 h et 20 h de jeu pour une première run en fonction de la vitesse à laquelle on lit, de si on prend son temps pour faire les choix, de si on skip tout le parti gameplay additionnel qui peut être plus ou moins difficile en fonction du niveau avec lequel on veut jouer et tout ça.
Ok, et toi, considères que tu as le rôle de game designer, marketing, relations presse, enfin, quel est ton rôle de développeuse?
Alors, moi, globalement, je m'occupe de diriger l'équipe. J'écris. Donc, c'est moi qui fais tout l'outline du jeu. Tout ça, j'écris. Alors, j'ai de l'aide pour l'écriture. Mais c'est moi qui relis la version finale, etc. Qui peaufine tout ça. Je code. Je fais le design. Et je fais effectivement le marketing.
Ok, donc multi-casquette, donc
C'est ça,
développeuse
très polyvalent.
indépendante, multi-casquette, on va dire presque classique, puisque on est parfois obligé
C'est ça.
de mettre ce tablier, on va dire, d'aller au charbon et faire
Et
un petit peu
encore,
tout, quoi.
je connais des devs qui font vraiment tout, genre même les graphismes, la musique, tout. Donc, je sais pas comment ils font, parce que moi, déjà avec ça, j'espère que dans mes prochains jeux, je pourrais m'enlever encore certaines tâches pour vraiment me concentrer sur tout ce qui me plaît le plus, quoi. Mais
Justement, qu'est-ce qui te plaît le plus?
Je dirais que c'est toute la partie game design où il faut vraiment créer l'histoire, les choix, tout ça. Là, finalement, je me suis pris d'affection pour le marketing, pour être tout à fait honnête. Donc c'est assez rare, mais à force d'acquérir des connaissances et tout ça, j'aime plutôt bien maintenant. Et la partie direction d'équipe, mais donc j'aimerais vraiment détacher complètement la programmation et l'écriture du truc. Le design, ça va parce que c'est un truc qu'on fait une fois, donc ça va me prendre une quinzaine d'heures d'un coup, et puis après c'est fini. Donc ça va.
Ok. Une question dans le chat également. Comment êtes-vous rentré en contact avec votre éditeur?
Sur un Discord, c'était sur le Discord de Arcadia Corp, si je ne m'abuse. Genre, justement, je parlais de mes difficultés à trouver un statut juridique qui me convienne. Et il y a Ellie qui a parlé de Binding Bridge, elle était là, elle a parlé
La
de Binding
surgit.
Bridge. C'est ça, elle a surgi des tréfonds et je lui ai dit, ah bah, je suis allée direct la voir en message privé. Je lui ai parlé du projet et comme Binding Bridge a beaucoup des valeurs d'inclusivité quand même, tout ça, le projet qui a un côté quand même un petit peu féministe, LGBTQ+ positif, tout ça, ça lui a parlé en fait. Donc on a tout de suite accroché. Et puis quelques mois après, on avait signé ensemble, voilà.
Ok. Et au niveau de votre jeu, de ton jeu, de votre jeu, quelle est sa spécificité? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités, des features, des twists, des rebondissements qui sortent un petit peu de l'ordinaire?
Bah, alors comme j'ai dit, je trouve qu'il y a assez peu de visual novel en français. Donc le visual novel, c'est vraiment, il y en a qui préfèrent histoire interactive, donc c'est vraiment le roman graphique avec des choix, tout ça. En plus, même par rapport au monde anglais où là il y en a à foison, on a beaucoup plus de choix en fait et de choix qui influencent l'histoire parce que souvent ça va être des choix par exemple qui vont permettre de choisir sa romance ou qui vont permettre de gagner ou pas l'affection d'un personnage. Mais là, on a vraiment des choix où on va diriger son empire vers une direction plutôt qu'une autre. Et donc voilà, il y a vraiment tout l'aspect politique, comme je disais un peu à la Game of Thrones, qui est très 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 présente dans le jeu et qui, je pense, nous démarque un petit peu des autres projets. Surtout que il y a des jeux, par exemple, j'ai testé un jeu qui s'appelle Yes, Your Grace, que j'aime beaucoup. Et en fait, on est souvent comparé à ce jeu-là, donc bon, ça ne me dérange pas parce qu'il est vraiment chouette. Mais par contre, quand on fait l'histoire une fois et qu'on refait l'histoire une deuxième fois, on se rend compte que nos choix ont absolument aucune importance. C'est vraiment pas pour ça qu'il faut jouer au jeu, parce que peu importe ce qu'on fait, l'histoire, elle va toujours nous rerailler au même endroit. Et là, du coup, nous, c'est vraiment là-dessus qu'on joue, parce qu'on vraiment, on peut rejouer le jeu trois fois et on verra que chaque fois, on n'aura pas les mêmes conséquences du tout. Donc je dirais que c'est vraiment la force du jeu. Après, il y a tout un côté gestion. Donc, c'est-à-dire qu'on voulait immerger vraiment le joueur dans le fait bah, de t'as un empire à gérer. Et donc, en fait, pour rendre les choix encore plus difficiles, il y a tout un système de gestion de ressources. Donc, par exemple, on a l'argent, on a les ressources physiques du style le bois, le blé, tout ça. Une ressource qu'on appelle l'influence. Donc, voilà, c'est vraiment nos relations diplomatiques et tout ça. Et donc, selon le mode de jeu qu'on choisit, on peut avoir ces ressources en plus à gérer. Donc, c'est-à-dire qu'un choix va nous coûter des ressources en fonction du choix. Donc, si par exemple on choisit d'envoyer l'armée, ça nous coûte des ressources militaires. Voilà. Et du coup, ça rend le jeu encore plus difficile parce que c'est-à-dire qu'il y a les choix qu'on veut faire de cœur, les choix qu'on dit, ah bah ça, c'est la bonne solution. Et en même temps, on a les ressources à gérer. Donc, on ne peut pas non plus être, par exemple, tout le temps en train de donner l'argent à tous les gens qui nous demandent des financements. Donc, par exemple, il y a des nobles, des religieux, des aventuriers, tout ça, qui vont demander des financements pour accomplir leurs rêves, leurs projets ou révolutionner l'humanité. Mais en fait, si on joue en version ressources, on ne peut pas donner de l'argent à tout le monde. Ou alors, il faut vraiment augmenter les impôts de fou pour pouvoir suivre. Donc voilà, donc ça
Ok.
rajoute aussi une spécificité par rapport au médium du visual novel.
Effectivement, c'est pas juste un jeu narratif avec des choix de réponses ou de dialogues, ça va être aussi la gestion d'un royaume, si j'ai bien compris, si je regarde bien le trailer qui passe en boucle justement. Ok, intéressant, intéressant. Et d'ailleurs, pour votre jeu, vous avez pu avoir Pierre-Alain de Garrigue, PAGD, qui est la voix
Alors,
du nain de Hearthstone il y a quelques temps déjà,
alors
entre
oui,
autres.
il fait juste le trailer parce que pour l'instant le jeu n'est pas doublé parce qu'on est sur plus de 200 000 mots quand même donc. Le jeu entier n'est pas doublé, mais c'est vrai qu'il a accepté. C'était un peu un coup de poker, genre quelqu'un qui connaissait Pierre-Alain de Garrigue. Donc j'ai dit, hey, est-ce que on cherchait quelqu'un pour faire le doublage du trailer pour qu'il soit un peu plus vivant? Parce que bah, justement, on est quand même sur un jeu narratif, donc il n'y a pas forcément beaucoup de jolies choses à afficher à l'écran. Enfin, ça bouge pas beaucoup, on va dire. Et du coup, on cherchait un bon voiceover pour rendre un peu tout ça plus vivant. Et il a accepté de nous le faire gracieusement en plus. Donc,
Ouais, super cool.
Ouais,
Ouais.
non, mais
En plus,
vraiment, la DGC, hein,
il fait
c'est une
ça
crème.
sur plein de projets.
Oui.
Il adore faire ça. Là, c'est super.
C'est ça.
Justement, je voulais vous poser la question à propos de vos inspirations. Tu m'as cité tout à l'heure un jeu auquel vous êtes comparé.
Ouais.
Est-ce que tu as d'autres jeux qui t'ont inspiré pour créer Imperial Grace ?
Dragon Age. Voilà, je suis une immense fan des Dragon Age. Tous les trois. Les trois, voilà. Et j'ai vraiment ça. C'est vraiment, je trouve que c'est un jeu qui réussit extrêmement bien à créer des personnages qui sont hyper attachants, à créer des relations qui sont hyper attachantes et à créer des choix où on a l'impression quand même qu'ils comptent pour l'histoire. Et donc voilà, ça a été, c'est ma plus grande source d'inspiration et voilà, je rêve qu'on me compare à, quand on me compare à Dragon Age, je suis toujours sur un petit nuage parce que c'est vraiment pour moi un des meilleurs jeux qui existent et j'ai envie de faire ressentir autant d'émotions que moi j'ai ressenti en jouant à ces jeux à mes joueurs en fait.
Ok, très bien. Pour tes collaboratrices et collaborateurs. Dans ce projet-là, tu as fait comment pour les dénicher ?
En fait, j'ai beaucoup parlé de mon projet. Donc, c'est-à-dire que en fait, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens, de développeurs qui galèrent à trouver des gens. Par exemple, ils vont avoir un skill particulier donc en écriture ou en codage et ils vont avoir besoin d'un graphiste ou l'inverse. Donc, c'est une question qui est importante. Et alors, en fait, moi, je me suis toujours dit il faut d'abord que je croie en mon projet et que je montre que mon projet, il est fiable. Et que je suis investie dedans. Donc moi, vu que je savais faire le graphisme, que je savais pas faire le graphisme, mais que je savais faire l'écriture, le codage, eh ben j'ai commencé par ça. J'ai commencé par écrire, par créer mon UI/Design, par coder, etc. Et du coup, au final, même si j'avais zéro dessin, j'avais quand même une histoire qui se tenait et qui donnait envie d'être lue et tout ça. Et du coup, j'ai réussi en fait à convaincre une graphiste de nous rejoindre parce qu'elle a aimé ce qu'elle a vu. Mais je pense que j'aurais pas réussi si jamais j'avais pas déjà par moi-même créé tout ce que je pouvais faire toute seule en fait. Et ça s'est fait comme ça pour presque tous les membres de l'équipe. Après, on a donc mon co-écrivain, qui est une personne que je connais personnellement dans ma vie privée. Et pareil pour une personne qu'on a rejoint finalement quand le projet commençait à prendre beaucoup d'ampleur pour aider à équilibrer les ressources. Parce que sur le game design, tout ça, c'est... Mine de rien, ça demande pas mal de précision pour que ce soit ni trop difficile, ni pas assez. Donc voilà, donc ça c'est ces deux personnes que je connaissais personnellement, mais sinon le reste du temps je les connaissais pas du tout, donc la traductrice, la proofreadeuse, la graphiste, tout ça, c'est des gens que je ne connaissais pas du tout et qui ont été convaincus en fait par ce que j'avais déjà présenté en fait.
Ok, ouais, effectivement il faut venir avec quelque chose de convaincant,
c'est ça.
Avec une démo, un prototype. Ou quelque chose qui montre qu'on sait faire et qu'on va dans cette direction-là pour essayer de convaincre. Parce que si on a juste un pitch, forcément c'est un peu plus compliqué. Hein. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de développeurs qui ont beaucoup d'idées, qui essaient de regrouper pas mal d'autres personnes motivées. Mais effectivement, le plus efficace, ça reste quand même, comme tu l'as fait, d'avoir quelque chose de palpable, de jouable et déjà une expérience, hein, même si elle n'est pas totalement finalisée. Quoi.
C'est ça. Même si vous avez, genre moi j'avais des placeholders, mais vraiment moches, avec des bonhommes bâtons et tout, qui bougeaient sur l'écran, et c'était tout. Et genre voilà, montrez ce que vous savez faire, vous déjà, ce que vous allez apporter à l'équipe, et que vous n'avez pas que des idées, en fait, que vous n'avez pas que une bonne idée, mais que vous avez aussi l'ambition de la réaliser, et puis en général, après, ça passe tout seul.
Ok, et d'ailleurs, tu avais réalisé déjà deux jeux précédents, c'est ça ? Gratuit ?
Ouais, en fait, j'ai commencé le développement d'Imperial Grace. Et puis entre-temps, je me suis vraiment plus investie dans la communauté en fait des visual novels. Et il se trouve qu'on a beaucoup de game jam en fait. Et donc du coup, avec d'autres équipes, d'autres personnes que je ne connaissais généralement pas, j'ai fait deux jeux de game jam. Donc, c'est-à-dire on a fait un jeu narratif qui a à peu près 3 ou 4 heures de gameplay en un mois. Et j'en ai fait deux. donc voilà, donc ça nous a aidé aussi à donner de la légitimité au projet. Et ça fait aussi partie du marketing finalement d'Imperial Grace parce que c'est des gens à qui en fait on a montré un jeu gratuit et qui après j'en ai beaucoup qui reviennent en disant ah bah j'ai beaucoup aimé ce jeu là donc je vous fais confiance pour faire un autre jeu encore meilleur sachant que celui-là vous le travaillez depuis 3 ans et pas depuis un mois quoi. Donc ça aussi c'est un bon conseil pour ceux qui aimeraient débuter. Je trouve que les game jams c'est hyper bien pour créer des liens avec des gens et se faire un portfolio.
Ouais, et c'est super cool de créer quelque chose en si peu de temps. On sait que c'est pas, ce sera pas un triple A, mais créer une expérience et juste créer pour créer, c'est déjà fun, quoi. C'est pour ça qu'on fait, on fait des jeux vidéo aussi, c'est qu'on aime créer, forcément. Du coup, est-ce que tu peux lister toutes les personnes ou les rôles que, qui travaillent sur le projet ?
Alors, nous avons Anna W, qui est notre profrideuse en anglais et en français. En fait, elle est bilingue. Et du coup, c'est super pratique en fait, d'avoir la même personne qui va corriger les deux langues, parce que si jamais il y a un problème de traduction, elle va tout de suite le voir. Du coup, que c'est pas le bon... c'est pas la bonne idée qui est exprimée derrière la traduction, par exemple. Parce que j'écris le jeu en français, et du coup, on a une traduction anglaise en parallèle, en fait. Donc, ensuite, il y a une autre Anna, qui est la graphiste. Donc, elle s'occupe vraiment de tous les dessins, des CG, de belles illustrations, des sprites, des personnages, et tout ça. Nous avons Adi, qui est, du coup, mon co-écrivain. Il y a Alexandre, qui est le game designer. Il y a Pierre Yodono, qui est notre composeur, et donc Giro, la traductrice. Et je crois que je n'ai oublié personne.
Ok, ça fait au total 8 personnes.
Ouais. Ok. Donc c'est quand même, elle s'est agrandie, comme je dis, c'est une team qui s'est agrandie au fur et à mesure. J'ai commencé toute seule, et puis après il y a eu du coup mon co-écrivain, et puis après il y a eu la graphiste, et après il y a eu le composeur.
Donc via des connaissances et des game jams principalement. Ça.
Bah, des game jams, et juste des fois, moi aussi, par exemple, le composeur, je suis allée le voir parce que j'aimais beaucoup son travail. Je suis allée le voir et je lui ai dit j'aimerais bien t'embaucher pour créer le trailer. Et en parlant du jeu, ça lui a tellement plu qu'il a dit je veux bien faire partie de l'équipe. Et c'est comme ça qu'on est arrivé là. Donc voilà, des fois, il faut pas hésiter à juste demander, en fait, quand on aime bien quelqu'un et qu'on a envie de travailler avec lui plus.
Ouais, et ce que je dis assez souvent, il faut d'abord se faire des potes avant de se faire des associés de travail, quoi, des partenaires de travail, parce que c'est important, le relationnel dans une équipe, forcément, et du coup, c'est forcément beaucoup plus plaisant. On connaît mieux la personne quand on a discuté avec elle, quand on a bu des coups, quand on a partagé des moments, que ce soit dans une soirée ou bien lors d'une partie de jeu vidéo Mario Kart ou autre. Oui, tu voulais dire.
Je dis, après, je pense que c'est aussi quand même un peu difficile des fois de travailler avec des gens qu'on connaît trop bien, surtout en tant que directeur, parce que des fois, en tant que directeur, on est obligé de refuser des propositions ou de dire ah ben ça, c'est pas comme il faut refaire ou des choses comme ça. Et des fois, quand on est proche des gens, ça peut être vraiment difficile d'avoir cette relation hiérarchique. Alors que dans une relation normale, tout le monde est sur la même pied d'égalité. Mais quand on est directeur d'un projet, qu'on a une vision à accomplir, des fois. Ça peut créer quand même un peu des tensions de travailler avec des gens qu'on aime beaucoup et qu'on n'a pas envie du coup de contrarier, voilà.
Ok, ouais, c'est un peu le double tranchant, quoi. Et il y a aussi le fait de pas être très engagé quand on s'associe avec quelqu'un qu'on connaît trop bien. Il va forcément peut-être se désister peut-être plus facilement parce que ouais, c'est mon pote, c'est pas grave, il comprendra. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois, donc... Donc c'est un petit peu double tranchant. J'en parle souvent aussi de tout ça dans mon livre, de mes expériences comme ça. Il faut faire attention forcément et pas forcément se focaliser sur une personne et mettre toute sa confiance dedans, parce que bon, tout peut arriver. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. On a des questions dans le chat. Ne vous inquiétez pas, je les lis, je les mets de côté. Une question de Yuku Quest. Possible de créer un jeu vidéo avec une association qui possède un Siret? Alors, pour créer un jeu vidéo, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit pour créer un jeu vidéo. Après, pour le publier, le distribuer, le commercialiser, surtout le commercialiser, à partir du moment où tu reçois un euro, tu es censé le déclarer et tu dois avoir un Siret, que ce soit en tant qu'artiste-auteur, donc tu peux t'auto-publier si tu es tout seul, ou bien créer une société. Avec une association, ça doit être possible si tu as un Siret.
Voilà. Je m'étais renseignée, en fait, le problème des associations, c'est ça peut marcher, mais que si, déjà, par exemple, le type de jeu que tu crées, il a une vocation positive. Donc, si, par exemple, tu crées des jeux qui sont inclusifs pour représenter les personnes LGBTQ+, par exemple, déjà, ça peut plus passer que si tu fais juste un jeu parce que c'est fun. Et ensuite, le truc, c'est que, par contre, vous ne pourrez pas récupérer l'argent dans les membres de l'équipe parce qu'ils sont très, très, très... exigeants dans les associations pour donner des salaires. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des grosses, grosses associations qui, évidemment, payent certains de leurs bénévoles, enfin, qui, du coup, ne sont plus des bénévoles, mais voilà, parce qu'il y a énormément de choses à gérer, tout ça, mais ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles à avoir comme autorisation. Et donc, ça fait que si vous créez une association pour vous réunir, pour vendre un jeu, ben en fait, l'argent que vous aurez, il vous servira qu'à créer d'autres jeux, éventuellement. Mais vous, vous ne toucherez rien dessus. Donc, vous pourrez toujours vous payer un portable, par exemple, avec l'argent de votre association pour créer d'autres jeux dans le but de votre association. Mais vous ne pourrez pas avoir d'argent personnel, en fait. C'est ça, le truc. Parce que je m'étais renseignée aussi dans ma traversée du désert avant de trouver Binding Bridge. Je m'étais renseignée sur le statut des associations.
Ok, merci pour ta réponse. Autre question, combien vous a coûté la conception du jeu ? La conception, je pense que ça inclut aussi le développement, mais tu n'es pas obligé de répondre hein, si tu veux garder ça.
Non, moi je peux. Alors en fait, moi, quand j'ai créé du coup le jeu au début, je voulais tout financer de ma poche. Donc j'étais en mode économie. Économie. Donc, par exemple, presque tous les backgrounds, c'est des stocks images que j'ai trouvés sur des sites qui coûtaient 30 balles le pack de 25 images. Et du coup, avec ça, en fait, j'arrivais à un développement qui coûtait genre 2000 euros, sachant qu'aucun membre de l'équipe ne se paye, moi y compris. Hein. Donc, c'est vraiment juste les assets dont j'avais besoin et que l'équipe en elle-même ne pouvait pas produire. Parce que, en fait, la graphiste n'étant pas française, on la paye à la commission, en fait. C'est une personne indépendante. Voilà. C'est un indépendant, elle ne touche pas de rev share sur le projet, mais du coup, on paye à la commission. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, il y a eu l'inflation, tout ça. J'ai eu des problèmes financiers parce que je me suis fait une fracture. Enfin, bref. Et du coup, là, je me suis dit, ça va être quand même compliqué de continuer à payer tout le développement de ma poche. Et c'est pour ça qu'on a créé un Kickstarter. Et donc là, maintenant, du coup, en fait, je vais pouvoir, rendre le jeu encore meilleur en ayant des vrais décors qui ont été faits exprès pour le jeu, en ayant plus d'illustrations, en ayant plus... parce que pour un des trucs qu'on a fait pour aider au coup, c'est qu'on a fait que des portraits pour les sprites, alors que sur les VN, c'est souvent on voit le corps entier, normalement. Et donc, du coup, voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir avoir des sprites qui sont plein pied au lieu d'avoir juste la tête. Donc, voilà. Donc, c'est un coup, tout ça. Et du coup, avant, j'avais réussi en ayant, comme on avait presque tous les skills qui venaient de la team, on allait même, on était sur un développement de 1 500-2 000 euros, en fait, pour tout faire. Et là, on est plus autour de 16 000 euros quand même quand on veut bien payer tous les gens à l'extérieur, et encore une fois, c'est sans se payer nous-mêmes, voilà.
Ok, donc en fait, le Kickstarter, c'est un patch d'upgrade graphique, de polish supplémentaire, parce qu'au final, le jeu, vous comptiez quand même le sortir, c'est ça. Mais grâce au Kickstarter, vous avez lancé d'ailleurs au début du mois, c'est ça?
Ouais, le 5 avril.
Ok, et du coup, ça permettra de financer tout ça. Très bien, très bien. Et en fait, c'était pas à la base peut-être une idée de financer à 100% le projet, mais plutôt à la fois de financer et puis de travailler un petit peu la communication, le marketing, c'est ça?
C'est ça. Ben, en fait, c'est vrai que dans le Kickstarter notamment, il y a des coûts marketing qui ont été inclus. Parce que ça, mine de rien, c'est quand même assez important. Donc, c'est-à-dire que ça fait deux bonnes années qu'on travaille sur le projet. On a encore un an de travail. On estime encore un an de travail avant d'avoir fini. Comme j'ai dit, personne ne se paye. Et on a quand même vraiment envie d'avoir du succès avec le jeu. Et sans du marketing, en fait, c'est presque impossible. Enfin, des fois, il peut y avoir des grands coups de chance, mais j'aime pas trop compter sur la chance uniquement. donc voilà. Donc, par exemple, pour le Kickstarter, on a essayé de lancer une campagne de publicité payante qui a bien marché. Donc, on était vraiment contents. Mais après, voilà, il y a plein de coûts de toute façon dans le marketing auxquels on pense pas. Mais genre la cover art, donc il faut une magnifique illustration pour donner envie aux gens de cliquer, d'en savoir plus sur le jeu. Il y a tout ce qui est autour du trailer, qu'on ne pense pas non plus, mine de rien. Il faut payer la personne qui va mettre en place le trailer. Des fois, il faut aussi payer la musique, enfin voilà. Et donc, c'est tous des coûts auxquels on ne pense pas du tout et que du coup, on peut financer aussi grâce au Kickstarter.
D'ailleurs, tu peux en parler, il en est où actuellement? Nous sommes le 22 pardon, avril.
Ben alors en fait, on demandait 16 000 euros et c'était vraiment, j'avais compressé les coûts au maximum. Et là, on en est à presque 40 000. Donc on a explosé toutes nos estimations. Moi, j'avais prévu des stretch goals, donc avec du contenu additionnel et tout ça. Mais du coup, quand j'ai vu à quel point ça montait vite au début, je me suis dit, ouh là là, il va falloir que j'en trouve des nouveaux parce qu'en fait, on va dépasser ce qui était prévu. Donc en fait, là, c'est vraiment génial parce que j'ai été hyper transparent avec notre public et je leur ai expliqué, bah, nous, on avait prévu jusque-là. Donc c'était 26, je crois que les stretch goals, ils allaient jusqu'à 26 ou 27 000 euros, un truc comme ça. Et donc maintenant, tout ce qu'on fait là maintenant, c'est du bonus. Et puisque on en est arrivé là, j'ai envie en fait que l'équipe, elle puisse avoir un petit quelque chose. Et donc en fait, voilà, donc j'ai proposé volontairement et en étant tout à fait transparente, des stretch goals qui nous coûtent moins cher à produire que ce qu'on va récupérer comme argent. Et du coup, là maintenant, l'équipe peut enfin commencer à gagner un petit peu d'argent grâce au projet. Donc je suis super contente.
Bravo, c'est pas fini.
C'est ça, il reste encore 2 semaines.
Du coup, à propos de la campagne Kickstarter, est-ce que tu as été accompagné pour lancer cette campagne?
Oui, alors bah, du coup, il y avait notre publisher Abiding Bridge qui était avec nous. Je crois que c'était leur première campagne de financement en tant que publisher en tout cas. Mais ils nous ont donné plein de conseils, et notamment tous sur la crise, parce qu'on a quelques rewards physiques, donc quelques récompenses physiques, qu'il faut les produire et tout ça. Donc à ce niveau-là, c'est eux qui se sont occupés de tout, c'était génial. Et en fait, moi, bah, comme j'ai dit, je voulais avoir des publicités Facebook pour essayer de booster un petit peu la visibilité du jeu. Donc je suis allée chercher un consultant que j'ai trouvé sur un obscur subreddit où il y avait quelqu'un qui parlait de sa stratégie, comment il avait fait et tout. Et j'avais trouvé que c'était quelqu'un de vachement bien, donc je l'ai contacté et puis il a bien voulu travailler avec nous, donc du coup bah voilà. Mais après, il faut dire que moi je suis une grande backeuse de projets, donc c'est plutôt similaire au mien en anglais. Donc j'avais quand même aussi pas mal d'expérience en tant que plus de l'autre côté de la scène, et donc ça m'a quand même aidé beaucoup à savoir ok, qu'est-ce que je dois mettre sur ma page, quel genre de reward les gens ils vont bien aimer et tout ça quoi.
Ok. Et tu parlais de Abiding Bridge en tant que publisher. Est-ce que cet éditeur vous aide à financer le jeu vidéo? Ou plutôt tout ce qui est distribution, marketing, communication?
Alors, non, du coup, en fait, ils prennent pas du tout une grosse part par rapport à beaucoup de publishers. La plupart des publishers, ils sont entre 30 et 50% quand même des revenus. Là, ils prennent 15% plus 5% parce qu'en fait, on s'est mis d'accord pour qu'ils nous aident sur le marketing. Mais du coup, l'idée à la base, c'est que vraiment, ils prennent pas beaucoup, mais que du coup, ils s'occupent vraiment juste l'aspect administratif des choses. Donc mettre le jeu sur Steam, redonner l'argent, nous aider à prendre notre statut d'artiste-auteur si on a des soucis, et nous donner des conseils, parce que bon voilà, c'est toujours ça de pris. Mais voilà, mais globalement, ils sont pas. Enfin, on est chacun en charge de notre projet et de notre marketing. Et ils vont nous aider quand ils vont avoir des opportunités, bah, par exemple des salons où ils sont invités, bah du coup ils nous invitent aussi, on a des tarifs préférentiels parce qu'on est beaucoup et tout ça, tout ça. Mais donc voilà. Et après nous, en fait, c'était parce que je voulais mettre en place un compte TikTok et que j'avais pas le temps de m'en occuper moi-même. Donc ils avaient quelqu'un à l'intérieur qui pouvait s'en occuper. Donc c'est pour ça qu'on a revu le contrat pour ajouter ces 5% supplémentaires pour avoir ça de gérer en plus. Voilà.
Ok. Pour la campagne Kickstarter, tu as été accompagné, et pour la campagne de publicité Facebook également? C'est
Oui.
Benin Bridge?
Non, comme j'ai dit, pour la campagne de publicité Facebook, c'est le consultant du coup que je
Ah
suis
oui,
allée
ok.
trouver sur le subreddit qui s'en occupait en fait. Donc c'est Facebook. Enfin, en fait, on a eu plein d'embrouilles. Franchement, on a eu plein d'emmerdes avec Facebook. Il a décidé de tout d'un coup de bugger. Genre le jour où on a lancé la campagne, il a bugué. Donc en fait, pendant 5 jours, on n'avait pas les publicités alors que c'est le meilleur moment en fait. Les 72 premières heures, c'est le moment le plus important. Et
Évidemment.
on avait pas de publicité, ne fonctionnait pas à ce moment-là parce que Facebook avait décidé de bugger. Enfin, donc heureusement qu'on avait cette personne qui nous aide parce que l'interface, elle est imbuvable. Mais ça reste, de toute façon, de l'avis de tous les gens qui font du marketing et qui ont un jour fait des publicités, ça reste quand même les plus efficaces. Donc voilà, enfin, je pense que quand on n'y connaît rien, ça doit être vraiment difficile de se lancer et d'en faire des comme il faut,
Oui.
quoi.
Oui, pour avoir testé un petit peu, c'est pas mon métier, et puis il faut passer du temps et mettre de l'argent forcément dedans pour avoir quelque chose de suffisamment, comment dire, travaillé et itéré pour avoir quelque chose qui matche quoi avec ta cible.
Ouais.
C'est un autre domaine.
Ben nous, en toute façon, on avait trois. En fait, grâce à l'algorithme, on avait trois cibles différentes. On avait les gens qui aiment bien les visuels nouvelles, on avait les gens qui aiment bien les livres, et on avait les gens qui aiment bien Dragon Age. Donc, c'était plutôt sympa. Mais ouais, du coup, c'est vrai que ben, pour tester, il faut donner de l'argent. Donc, du coup, c'est pas un truc qu'on peut apprendre en se disant ben, je vais tester jusqu'à ce que ça marche. Donc, c'est toujours un peu compliqué, je pense, les publicités Facebook quand même.
Question dans le chat, si c'était à refaire, tu repasserais par Kickstarter ou bien une recherche de partenaires? Une question de Ri.
Franchement, je pense que j'aime beaucoup mon expérience avec Kickstarter jusque-là. Donc, je pense que je repasserai par Kickstarter parce que non seulement, en fait, c'est pas qu'une question d'argent, en fait, c'est aussi une question de communauté. Donc, c'est-à-dire qu'on avait déjà une communauté pendant 2 ans parce que je fais quand même du marketing de façon assez active depuis que le projet il existe. Donc, on avait déjà une communauté, mais j'ai l'impression qu'elle a jamais été aussi soudée et active et engagée que depuis qu'on a la campagne. Enfin, fallait voir vraiment tout l'amour et le soutien et le relais qu'on a eu grâce à la campagne Kickstarter. Et la campagne, en fait, elle nous ramène elle-même des nouveaux gens qui auraient peut-être jamais connu le projet autrement. Donc, via les pubs, mais via Kickstarter lui-même, en fait, parce que, bah, en gros, Kickstarter, quand on finance un projet, il va nous envoyer des mails et puis. En fin du mail, il va dire ah ben, voilà les projets similaires à celui que vous avez déjà soutenu et tout ça. Et en fait, donc du coup, c'est difficile de savoir exactement quelle part de nos dons viennent de gens qu'on connaissait déjà, de la publicité ou de Kickstarter. Mais en tout cas, Kickstarter, il joue quand même. Donc je trouve qu'en fait, à la fois, Kickstarter, c'est un bon moyen de récupérer de l'argent et en même temps, c'est aussi un bon moyen de créer une communauté, en fait, aussi, tout simplement.
Ok, d'ailleurs en parlant de communauté, les réseaux qui marchent le mieux, donc tu as cité TikTok, Instagram,
Alors,
Discord.
Instagram pour nous n'a jamais marché. Mais alors vraiment, j'ai essayé les reels, les images. C'est pour nous ça n'a jamais pris. Il y avait Twitter qui marchait plutôt bien, mais plus pour créer des liens avec d'autres développeurs en fait, avec des streamers. En fait, je pense que Twitter c'est un bon moyen de créer du lien avec d'autres développeurs, avec des content creators, donc des streamers, de la presse, tout ça. Pas forcément avec le public en lui-même. Et puis alors là, enfin. Je trouve qu'il est en train de se casser la figure de plus en plus avec les décisions managériales plus ou moins discutables qui sont prises. Donc, franchement, je ne recommencerai pas les gens là-dessus. Et sinon, l'autre réseau social qui a bien marché pour nous, c'est Tumblr, parce qu'il a une grosse communauté de visual novels, tout simplement. Alors, après, je pense que ça dépend beaucoup du genre de son jeu. Genre, si on est sur du shooter, à mon avis, Tumblr, bof. Mais voilà, pour les jeux narratifs et tout, il y a une grosse, grosse, grosse communauté très impliquée. Et du coup, je dirais que grâce à Twitter, on a touché le plus, j'ai fait le plus de potes, voilà, dans le monde du jeu vidéo. Et grâce à Tumblr, c'est vraiment là où j'ai touché le plus de gens impliqués, le plus de joueurs, en fait, tout simplement.
Ok, je m'attendais pas à ça, mais intéressant. C'est vrai que il faut aller chercher les réseaux sociaux qui matchent avec sa cible, quoi. Il n'y a pas de formule
Ben ouais.
magique, ça va être surtout peut-être essayer-erreur un petit peu, donc essayer ce qui marche pas, et voir ce que font les autres aussi, et s'il y a du potentiel, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis voilà. Et puis après, TikTok, c'est juste l'algorithme qui est magique. Mais ceci dit, je pense qu'il faut pas trop traîner parce que les réseaux sociaux, ils ont toujours cette espèce de courbe où d'abord, ils veulent récupérer le plus de gens possible. Donc, ils vont avoir des algorithmes très favorables. Et puis après, ils vont commencer à vouloir donner de la visibilité contre argent. Et donc, après, là, l'algorithme, il va se casser la figure et TikTok ne sera plus un si formidable outil. Que ça ne l'est maintenant.
Ok, bon à savoir. Facebook, on est obligé de passer par la publicité payante. Hein. Les groupes,
C'est ça.
c'est fini. Ça ne marche plus malheureusement. Ils nous poussent à payer des annonces.
Ben, c'est ça, ouais. Facebook, et de toute façon, maintenant, Instagram appartient à Facebook, donc c'est un peu la même chose, en fait. Après, je sais qu'il y en a qui arrivent à sortir du lot. Je ne sais pas comment ils font. J'aimerais bien savoir. Mais voilà, en tout cas, moi, Facebook, Instagram, ça n'a pas. Enfin, c'est vraiment, ça n'a pas du tout fonctionné pour nous.
Est-ce que vous avez un blog ou vous tenez un journal de bord pour l'avancement du projet ou juste le Discord avec quelques news et avancement du projet?
Alors en fait, moi sur Discord, je poste mes progrès au jour le jour. Donc c'est-à-dire que je vais vraiment être vraiment dans la commune, enfin presque dans la discussion avec les gens. Donc je vais dire ah bah aujourd'hui j'ai écrit 1000 mots, ah aujourd'hui j'ai codé telle chose. Enfin Voilà, et puis tous les mois, en fait, j'essaye de faire une update un peu plus formalisée que je poste en fait sur Itch.io et sur Steam, parce que mine de rien, ce sont aussi des plateformes qui vont nous ramener de la visibilité. L'algorithme qu'ils ont et qui vont, bah, pareil que pour Kickstarter, hein, vous avez aimé tel jeu, bah, vous allez sûrement aimer tel autre jeu, bah, mine de rien, c'est un très bon outil. Et donc, montrer sur ces plateformes que même si ça fait 2 ans que la page elle existe, bah, on continue à poster dessus et qu'on avance tranquillement, mais sereinement, bah.
Je n'ai pas posé la question, mais c'est souvent une question qui revient au niveau de la technique. Vous avez utilisé quel moteur de jeu?
Ben en fait, nous, on est sur RNP, donc c'est pas du tout connu, mais c'est vraiment
C'est connu.
un logiciel spécialisé. Ah si, il y en a qui connaissent, ben tant mieux. Mais c'est vrai que par rapport à Unity ou Unreal Engine, voilà, mais
Ouais, pour du
sur...
visual novel, c'est
Voilà,
idéal.
c'est le Graal des visuels nouvelles. C'est vraiment, il n'y a pas photo. En fait, toutes les fonctionnalités qu'on veut, elles sont déjà implémentées dans le moteur de jeu, donc c'est caviar. Le seul, je dirais... truc qui est dommage, c'est que ça ne supporte pas en fait le fait de porter sur des consoles le jeu. Et nous, dans la communauté visuelle nouvelle, la Switch est très utilisée. Et du coup, en fait, on peut pas le faire directement. Donc, il faut soit passer par, soit il faut tout mettre son jeu sur Unity ou des trucs comme ça, soit il faut passer par des boîtes spécialisées qui demandent beaucoup d'argent pour porter le jeu. Mais c'est voilà, c'est beaucoup plus compliqué que quand on est sur du Unity ou des choses comme ça, quoi.
Ouais, alors de mémoire, RNP exporte possiblement un .exe donc sur Windows ou Mac, et il exporte aussi une version HTML5 du jeu.
Ouais, elle est beaucoup plus fiable qu'avant. Et aussi, on peut avoir des applications. Par contre, pour mobile, les APK, tout ça, ça marche bien.
Ok.
C'est vraiment sur les consoles, genre Switch, Xbox et tout, que
Ouais, il
c'est pas
faut
possible.
passer par, en fait,
Ouais.
techniquement et puis grossièrement, il faut juste mettre son jeu dans une page web. Et en fait, l'application du jeu va lancer une page web avec le jeu à l'intérieur. C'est comme ça que j'ai fait pour exporter mes jeux sur Steam, mes jeux HTML5 sur Steam, qui n'étaient pas faits sur Unity. Donc c'est, il faut savoir faire, surtout si t'as pas les outils clés en main comme dans Unity. Donc effectivement, les boîtes de portage, ce qui pourrait être le cas, hein, si jamais vous êtes motivé et que le jeu fonctionne bien sur PC, vous allez possiblement avoir de la demande et trouver une nouvelle niche, j'imagine, de joueurs qui aiment jouer à ce genre de jeu sur Switch.
Bah, c'est vrai que voilà, comme je dis, en fait, les visual novels, donc notamment le sous-genre de romance avec personnages féminins qu'on appelle les otome, ils viennent à la base du Japon et ils sont presque tous sur Switch. Donc on a déjà une demande en fait pour la Switch, mais c'est juste que pour l'instant, c'est voilà, les coûts ne rentrent pas dans le budget parce qu'on est vraiment sur
Un
des
nouveau
montants
stretch goal,
faramineux.
peut-être? Un nouveau stretch goal à beaucoup plus que 100 000, peut-être,
Voilà.
je sais pas, je dis n'importe quoi.
Et après, encore une fois, c'est une question de choix. Donc, c'est-à-dire qu'on a choisi, là, pour le coup, quand on avait atteint tous les stretch goals qu'on voulait donc faire, donc on avait un DLC où on peut se marier, enfin des choses comme ça, j'étais vraiment en mode, bah, j'ai envie que la team puisse profiter un peu de son dur labeur quand même. Et donc, si on met un nouveau stretch goal comme bah, un Switch, ça veut dire que tout l'argent qu'on gagnera, ils vont aller pour payer ça, et que nous, on n'aura plus rien, en fait. Donc, je préfère plus tabler. Genre, si le jeu vraiment se vend très bien sur Steam, une fois qu'il est sorti, là, on pourra reconsidérer la question, je pense.
Oui, c'est plus sage et il vaut mieux y aller petit à petit et voir
C'est
un
ça.
petit peu comment ça fonctionne avant de mettre la charrue avant les bœufs, avant de vouloir ça sortir son jeu partout, dans toutes les langues, sur
Ça.
toutes les plateformes. Ouais, ça peut être l'erreur classique qu'on fait, hein, de vouloir tout sortir d'un coup
Vouloir
sur toutes les
rajouter trop de
plateformes.
features. Enfin,
Ouais.
ça aussi, c'était hyper important pour moi. C'est-à-dire que je sais à peu près ce qu'on est capable de faire dans un temps raisonnable. Mais il y a beaucoup de jeux qui vont surenchérir, notamment via Kickstarter, parce que ça nous pousse un peu à ça aussi, hein, à toujours proposer des nouveaux objectifs qui donnent vraiment envie et tout ça. Du coup, ça va surenchérir. On va rajouter une romance. Ah, on va rajouter 10 chapitres. Enfin, et après, en fait, au final, on se retrouve à jamais pouvoir finir le jeu. Parce qu'on a rajouté trop de choses et c'est pas linéaire en fait, c'est un peu exponentiel. Hein. Plus on rajoute de choses, plus ça va prendre du temps. Donc voilà, donc c'était aussi pour nous important d'être hyper carré et très réaliste sur ce qu'on pouvait réaliser et ce qu'on ne pouvait pas réaliser.
Ok. Question du chat de Yoku Quest. Quel conseil donnerais-tu à des créateurs indépendants pour créer une communauté?
D'être très disponible. En fait, c'est. C'est vrai que les gens, quand ils font du marketing, ils ont tendance à se concentrer sur tout l'aspect je veux toucher des nouveaux gens. Sauf qu'une fois qu'on a touché ces nouveaux gens, comment on fait pour les garder? C'est ça le plus difficile, en fait, finalement. Et du coup, moi, je dirais déjà, le premier outil, c'est la mailing list, les newsletters, tout ça. Alors, ça paraît vraiment vieux jeu. Moi, j'avoue, au début, je n'étais pas du tout convaincue par ça parce que j'étais en mode qui encore utilise les mails à part pour faire ses impôts? Mais en fait, non, pas du tout, parce que. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une automation. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un s'inscrit à notre newsletter, il reçoit une série de mails qui est préprogrammée, en fait, pour être envoyée. Et c'est des mails que j'ai intitulés, enfin, l'automation, elle s'appelle Faire connaissance. Et donc, en fait, le premier mail, par exemple, je me présente, mais en tant que moi, développeuse et tout ça. Et le deuxième mail, je dis, est-ce que tu veux te présenter aussi? Et il y a plein de gens qui m'ont répondu, en fait. Genre, j'y croyais pas. Mais il y a plein de gens qui m'ont répondu. Et du coup, ça lance la conversation, en fait. Et après, bah, je continue en mode, est-ce que, enfin voilà, comment le projet il est né. Donc, je raconte un peu ce que j'ai raconté tout à l'heure. Voilà, quand j'étais très jeune, je jouais à Amour Sucré. Après, ça m'a gonflé les microtransactions. J'ai voulu faire un jeu et tout ça. Et après, voilà. Donc, ça, c'est, je pense, un premier outil qui est pas mal. Parce que tant qu'on n'a pas une grosse communauté, ton Discord, il va être mort. Il faut qu'il y ait au moins, franchement, en fait, il faut qu'il y ait au moins 1000 personnes dessus pour que ça commence à se générer tout seul, les conversations. Et du coup, au début, sinon, ça demande beaucoup, beaucoup de community management pour pas beaucoup de résultats. Donc, je trouve que voilà, la mailing list, c'est un bon moyen de commencer sans trop d'investissement. Et après, quand on commence à avoir beaucoup de monde, là, on peut aller sur Discord et avoir vraiment plus une relation de chat et de tous les jours, mais c'est un investissement en temps. C'est-à-dire que je réponds à tous les commentaires sur les réseaux sociaux, à tous les commentaires sur les pages Steam, Itch.io, tout ça, et à tous les messages sur Discord. Mais c'est un temps. Enfin, voilà, c'est un truc. Il y a des fois, si c'est plutôt tranquille et qu'il se passe rien, bah des fois j'en ai pas. Et si jamais c'est un peu agité, surtout au début du Kickstarter, je pouvais facilement y passer 1 ou 2 heures par jour à juste répondre aux gens. En plus, des fois, il faut faire des trésors de créativité parce que quand tu dois dire merci de 15 façons différentes, c'est voilà. Et il faut pas non plus se forcer parce que moi, c'est un truc, c'est vrai que j'aime bien. Donc, je pense que les gens, ils le sentent que j'aime bien parler avec les gens et que j'aime bien faire connaissance et tout ça. Alors que si jamais vous êtes par exemple hyper timide, ça peut être plus compliqué, je pense, de faire ça parce que les gens vont sentir que vous y allez avec les pieds qui traînent et. Donc, il faut trouver là ce qui fonctionne pour vous, quoi.
Ok, merci. C'est vrai que la mailing list, c'est toujours d'actualité, hein. Moi, c'est comme ça que je fonctionne aussi sur mon blog, hein. J'envoie plein de mails sur la création de jeux vidéo. Les personnes qui suivent, ils me répondent aussi. C'est cool. Je leur demande leur avis, etc. Et d'ailleurs, l'email, ça touche quand même une génération. Bien qu'on a tendance à dire maintenant on n'utilise plus l'email, mais ça touche une génération, ça c'est sûr. J'ai l'impression que les nouvelles générations qui arrivent sont beaucoup plus dans l'instantanéité, ils veulent des réponses immédiates, donc ils vont pas utiliser d'email, ils vont pas utiliser le formulaire, ils vont pas utiliser les trucs faits pour envoyer des emails formels, ils vont t'envoyer un message direct. Alors, par exemple, tu es en cours, tu es en train de travailler, tu reçois des messages privés sur Discord ou autre à propos de ton jeu, donc bon, tu peux pas répondre tout de suite, mais du coup les gens veulent une réponse tout de suite, donc limite ils peuvent te ressolliciter encore et encore et encore. C'est ça que j'ai remarqué. Enfin, moi je suis peut-être de la vieille génération, mais je préfère avoir le temps de répondre, de pas être comment dire contraint et soumis à mon téléphone ou message instantané. Parce que je trouve que ça casse un petit peu liberté, enfin c'est un autre sujet bien sûr, mais je coupe tous les réseaux sociaux, je coupe tout sur mon téléphone, tout a été désinstallé. Mais bon, mon Discord, je reçois les messages de mes élèves, les messages des gens qui veulent s'inscrire à mes formations, des gens qui ont besoin d'aide sur Discord. Bref, j'en reçois. C'est pas que ça me fait chier, mais c'est que j'ai des fois pas le temps ou pas la motivation de répondre tout de suite, donc c'est un petit peu le problème, il faut vraiment avoir la motivation. Mais quand c'est des gens qui sont bienveillants, qui apprécient ce que tu fais, qui donnent envie de répondre, forcément, ça donne encore plus envie d'interagir avec eux. En tout cas, c'est mon ressenti.
Ça, c'est vrai que c'est hyper important de poser des limites. Moi, par exemple, quand je suis au travail, ben, je suis au travail et c'est tout, et c'est mon travail, et donc je ne vais pas être en train de répondre aux gens en commentaire ou sur Discord ou voilà quoi. Mais même au-delà de ça, je pense que c'est important de se dédier du temps pour ça et de ne pas se laisser bouffer jusqu'à minuit, le soir, à faire ça. Et aussi important de poser des limites sur les relations, c'est tout ce qu'on dit, les relations parasociales et ça. Alors pour l'instant, je trouve que j'ai de la chance, j'ai quasiment personne qui a dépassé, on va dire, les limites du cadre de oui, je fais un jeu qui te plaît, hein, mais ça ne veut pas forcément dire que je te connais ou que je suis ta copine et que tu peux venir me raconter ta vie là comme ça tout de suite. Mais en fait, je connais plein de développeurs qui en fait n'ont pas eu le carré de dire tout de suite non quand ça commençait, quand les questions devenaient trop personnelles ou quand les gens ils commençaient à se permettre en fait de faire des critiques pas forcément fondées et tout ça. Et donc, mine de rien, ça demande une posture à avoir aussi de. Alors là, par contre, j'aurais du mal à expliquer c'est quoi exactement comme posture, mais je sais en tout cas qu'il y a une posture à avoir pour créer un peu quand même de la distance avec les gens avec qui on parle, en disant ok, je suis friendly, alors je sais pas le mot en français, mais voilà, je vais t'écouter, je vais répondre à tes messages et tout ça, mais en même temps, on se connaît pas, voilà, tu peux pas te permettre de me parler de façon trop familière ou de permettre. D'être trop virulent dans les commentaires. Enfin, je pense que pour créer une communauté positive, il faut jamais laisser la négativité justement s'installer. Et ça, c'est un truc aussi que beaucoup de développeurs ont peur. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui commence à être un peu trop virulent, à critiquer tout le temps ce qu'on fait, à être jamais satisfait, tout ça, on va se dire, ah ben, le moindre personne compte, je veux pas avoir une mauvaise image et tout ça. Sauf qu'en fait, en laissant ce genre de négativité s'installer, ça donne l'exemple aux autres qui peuvent se dire qu'ils peuvent faire la même chose. Et on peut se retrouver avec des communautés détestables, en fait, qui vont vraiment tout le temps être en train de critiquer et tout ça. Donc, moi, je dis honnêtement toujours aux gens, non, mais je préfère perdre une personne qui ne sera pas contente de la façon dont je gère les trucs et donc le fait que je n'étais pas tout le temps d'accord avec elle ou quoi, que de laisser, en fait, une négativité s'installer sur le long terme, qu'après, on va payer bien plus fort, en fait.
Intéressant. Après, même dans le visual novel, pour moi, c'est quand même un milieu assez open où voilà, on s'intéresse à des personnages, des histoires. C'est pas juste des gamers purs, comment dire, dans la typologie de Barton, on appelle ça les killers, qui sont dans la compétition, dans l'action, qui sont dans l'instantanéité aussi, qui veulent donner leur avis tout de suite, et qui sont très impulsifs, j'ai l'impression, en tout cas. Enfin, à force d'analyser un petit peu tout ça, je schématise peut-être un peu, enfin, aussi un peu le tableau, mais c'est un petit peu le ressenti, quoi. Mais même dans le narrative design, je pense qu'il y a des joueurs exigeants qui, peut-être, ne peuvent pas être d'accord avec tout.
Après, en fait, on a deux types de cas. Alors, on a les gens qui considèrent que les visual novels ne sont pas des vrais jeux. Et notre simple. Et moi, genre, si ils considèrent ça ne me dérange pas qu'ils y jouent pas, en fait. C'est ça le truc. Mais ce sont des gens qui ne supportent pas notre simple existence, en fait. Donc, il y a vraiment des comptes sur Steam. Des fois, si vous allez voir, il y a un compte qui a vraiment acheté, je crois, plus de 2000 visual novels juste pour les critiquer et les descendre dans les commentaires. C'est incroyable. Il y a des gens, ils sont dédiés à ça. Voilà, donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on est sur des histoires où on laisse les personnages, enfin on laisse les gens créer leurs personnages. Et des fois, ils vont s'investir trop émotionnellement dans l'histoire. Et donc du coup, après, ils vont commencer à se permettre de dire, ah ben moi, j'aurais pas fait comme ça. Ah ben du coup, pourquoi est-ce que vous avez fait tel choix? Ah, ou pourquoi tel personnage, il n'est pas romançable? Ah, ou pourquoi est-ce que tel moment, il fait ça, c'est pas normal, moi, j'aurais jamais fait ça. Et c'est là qu'il faut savoir dire stop. C'est moi qui écris l'histoire, pas toi. Et c'est très, mais c'est difficile à faire en fait, parce qu'il faut essayer de le faire de façon diplomatique, parce que la plupart des gens ne pensent pas à mal quand ils commencent à dire mais non, il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Et en même temps, il faut justement mettre des limites claires de ah ouais, je veux bien prendre le feedback et tout, mais je veux pas. C'est pas toi qui décides, en fait, c'est moi qui décide. Et là, tu deviens trop envahissant en fait. Et voilà, c'est difficile à faire.
Ouais, quand les joueurs s'impliquent, ils ont tendance à vouloir façonner le jeu à leur façon, à leur vision. Mais voilà, la vision, c'est l'équipe créative qui l'a, quoi. Ce sera toujours ça. Mais avec tout ce qui se passe, les choix dans les films, les choix scénaristiques dans les films qu'on voit, les séries aussi, et tous les pétitions qui demandent de refaire des scénarios, je trouve ça aberrant. Franchement, je trouve ça aberrant. Ça n'a pas de sens. La vision artistique, elle est là-bas. Il faut l'accepter. C'est comme ça. C'est peut-être pas des gens qui sont créatifs eux-mêmes, donc ils n'ont pas ce recul non plus. Mais voilà, c'est sûr que des fois on peut être mécontent de quelque chose, mais c'est comme ça. Enfin, moi, je suis plutôt spectateur quand je suis une histoire. Maintenant, voilà, on peut se permettre. Et d'ailleurs, on va y venir. On parlait de l'IA. Avec l'IA, je voulais te poser la question à propos des concept art. Est-ce que tu as eu l'idée? Est-ce que tu t'es dit, ah, ça peut être intéressant? T'as été tenté? On peut dire ce qu'on veut sur, comment dire, sur la légitimité de tout ça. on peut avoir un regard bien spécifique, mais.
En fait, moi, c'est-à-dire que l'IA en tant que telle, je trouve que ça, c'est, de toute façon, c'est le futur. On pourra pas. C'est comme ça, ça va aller. Ça va exister. Maintenant, moi, le truc, c'est que je suis entourée de créatifs, je suis entourée d'artistes que j'adore. Et ça me touche énormément, en fait, de voir toute l'anxiété qu'ils peuvent avoir autour de l'IA. Je trouve que c'est vraiment dommage que les choses, elles aient pas été faites correctement. Parce que, bon, on dira ce qu'on veut, mais le fait que l'IA se soit alimentée sur des créations sur lesquelles ils n'avaient absolument aucun droit, aucune légitimité, tout ça, et qu'elles permettent aussi volontairement aux gens d'imiter le style d'un artiste en particulier. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment des gros red flags. Et éthiquement, je me suis jamais dit, ah bah, je pourrais utiliser l'IA pour diminuer les coûts. Alors c'est sûr, ça peut être intéressant parce qu'on est tous, enfin, on a tous des problèmes d'argent, je pense, dans le développement indé. Malheureusement, personne n'a encore gagné au loto pour pouvoir créer son jeu, je pense. Mais malgré tout, en fait, c'est juste que voilà, je respecte trop les personnes avec qui je travaille pour me dire, je comprends pourquoi est-ce qu'ils sont mécontents autour de l'IA. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça aurait pu être un outil formidable si les choses avaient été faites correctement et si on n'avait rien à leur reprocher, en fait, sur comment est-ce qu'ils créent leurs images et tout ça. Donc voilà, autour de tout ce qui est image, création d'images autour de l'IA, je suis vraiment, éthiquement, je peux pas encourager les gens à faire ça. Enfin, je pense vraiment, payez-vous un artiste, mettez de côté pour vous payer un vrai artiste. De toute façon, en plus, maintenant, enfin, moi, je suis pas très visuelle, donc je vois pas trop les choses, mais il y a des gens, tout de suite, ils vont le savoir si ça a été fait avec l'IA ou pas, parce qu'il va y avoir des petits détails qui trahissent et qui trompent pas. Par contre, tout ce qui est chat, GPT, tout ça, alors, encore une fois, je pense qu'en termes d'écriture créative, faut faire attention parce que un truc quand même qu'il faut garder en tête, c'est que tout ce qui est sur l'IA ne peut pas être copyrighté, puisque techniquement n'importe qui peut recréer exactement la même chose que vous en donnant le même prompt que vous à l'IA. Donc, je vois qu'il y a plein de gens. Moi déjà, j'ai vu plein de gens qui se disent ah ben je vais faire écrire mon histoire par ChatGPT, ça m'évitera de trouver un écrivain. Et je dis bah faites gaffe parce que du coup n'importe qui peut reprendre ton histoire, elle est pas copyrightable. Hein. Actuellement, la jurisprudence se dirige plutôt vers là. Donc moi j'ai pas envie de faire un jeu que n'importe qui puisse reprendre et dire que c'est lui qui l'a fait. Mais par contre, là où je trouve que l'utilité elle est vraiment bien, c'est pour trouver des idées. Donc c'est-à-dire que moi quand je cherchais mes stretch goals en plus, je suis allée sur ChatGPT, j'ai dit bon alors voilà, j'ai déjà proposé ça, 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 est-ce que tu peux me donner d'autres idées? Et après j'ai pris les idées que je trouvais intéressantes, je les ai fait à ma sauce et tout ça, mais pour générer une liste d'idées, même sur, par exemple, bah, des fois, je ne sais pas trop quoi poster sur les réseaux sociaux. Ah bah voilà, est-ce que tu peux me suggérer des idées de posts sur les réseaux sociaux? Et là, pour ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et pour le coup, il n'y a aucun problème éthique à faire ça comme ça, parce que ça va vraiment juste te permettre de brainstormer. Et c'est vous, au final, qui allez créer la chose, en fait. Voilà.
Ouais, j'ai le même avis là-dessus, effectivement. Moi, j'utilise pour le code. Donc, après, pour le code, il s'alimente pas mal des codes sources qui sont protégés par le droit d'auteur aussi, en principe. Mais après, ça reste de la technique et c'est surtout des petites aides par-ci par-là, quoi. C'est pas juste crée-moi une histoire. Et d'ailleurs, ouais. Ça peut être un autre débat, mais comme l'IA devient de plus en plus prépondérante, on peut imaginer que dans un futur proche, par exemple, une personne n'aime pas beaucoup la fin de l'histoire, ou n'aime pas beaucoup un personnage, ou préfère de telle ou telle couleur, n'importe quoi, et demander à l'IA de recréer l'histoire, de régénérer l'histoire avec un twist, un changement, un truc qui va plaire uniquement à la personne qui voulait personnaliser son histoire. En tout cas, c'est un truc que j'imaginais et qui va possiblement se faire. Enfin, pourquoi pas,
hein. Après, la personne, elle se fait un petit kiff toute seule et qu'elle demande à ChatGPT de réécrire la scène, du moment qu'elle le fait rien que pour elle, elle fait ce qu'elle veut. Je veux dire, les fanfictions, ça existe de tout temps. J'en ai fait quand j'ai commencé l'écriture comme ça. Et voilà, honnêtement, voilà, ça ne me dérange pas du tout. Par rapport à tout ce qui est fan création, j'ai dit, les gens, ils sont libres, vous faites les fanarts que vous voulez, vous faites les fanfictions que vous voulez. Je n'irai pas commencer à me plaindre ou je ne sais quoi. Même si c'est derrière un Patreon ou quoi. Du moment que ce n'est pas offensant, donc c'est-à-dire qu'on a quand même des personnages LGBTQ+, on a quand même des personnages de couleur et tout ça. Si je vois un jour qu'il y a une fanfiction qui commence à faire parler un personnage noir de façon hyper raciste, là, je vais aller intervenir en disant non, mais... C'est pas mes valeurs. Donc là, t'es vraiment en train de dépasser les bornes. Mais à part ce cas très très précis, les gens, c'est que pour eux ou vraiment pour un cercle proche, ils font un peu ce qu'ils veulent. Pour le jeu vidéo, c'est encore différent quand on est créateur. Donc c'est-à-dire que plus il va y avoir de gens. Enfin, de toute façon, là, en ce moment, les maisons d'édition, elles commencent à ne plus accepter aucun script parce qu'ils sont submergés de propositions faites par l'IA. Et ça va arriver dans le jeu vidéo aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens, ils vont faire écrire leur script, faire leurs images, faire leur code via l'IA, et du coup, ça va saturer le marché. Et ça, c'est encore un autre problème, en fait, qui me fait bien plus peur que d'être remplacée. Par exemple, en tant qu'écrivaine, j'ai pas du tout peur d'être remplacée par l'IA, parce que je considère que j'ai une vision, j'ai un style, et les idées... C'est pas l'IA qui les aura pour moi, en fait. Mais ce qui me fait plus peur, c'est que ça va être de plus en plus difficile. Déjà qu'en fait, en tant qu'indé, on se bat pour avoir la miette de visibilité et trouver le bon public et toucher le bon public. Si bientôt, on est envahi de créations faites en 2 jours grâce à l'IA, ça va être de plus en plus compliqué de sortir de la marée, en fait.
Ça pourrait être un autre débat, un autre podcast, d'ailleurs. Intéressant. On arrive vers la fin, j'ai quelques questions pour terminer. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour lancer son Kickstarter ? Lancer correctement son Kickstarter.
Le lancer sans avoir fait de promotion avant. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, l'algorithme de Kickstarter va te proposer des gens, mais c'est comme tout, hein, c'est comme Steam, c'est comme Itch.io, c'est comme partout. Plus tu ramènes toi-même des gens, plus il va le mettre en avant, parce qu'il va dire « Ah, bah ça, c'est un Kickstarter qui marche !» Et plus ça va donner confiance aux gens de le rejoindre. Donc, en fait, je pense qu'il faut au moins faire 6 mois de marketing avant et réunir une première communauté qui va être là. Et nous, on a fondé nos 16 000 euros, on les a eus en 8 heures. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait les gens, ils étaient là, ils étaient prêts, ils se réveillaient le matin et ils allaient donner l'argent pour le Kickstarter. Et c'était incroyable. Et ça, il faut avoir cette première émulation, en fait, pour que ça fonctionne. Donc, je dirais que le plus important, c'est d'avoir des objectifs réalistes, de pas se laisser trop entraîner à se dire « Ah bah ça marche bien, donc je vais proposer plein de nouvelles features et qu'après on se retrouve à ne pas pouvoir tenir nos engagements. » Et c'est très difficile hein, de dire aux gens qui nous ont donné de l'argent « Ah bah désolé, on a tout dépensé dans le développement, mais on peut pas finir le jeu. » Et c'est de commencer en ayant une communauté et une démo. C'est très très important maintenant les démos. En fait, la plupart des gens, ils vont même pas aller la jouer, hein, votre démo, mais ils vont voir que sur votre page Kickstarter, vous avez mis que vous avez une démo, et donc ils vont se dire « Ah, bon ça va, ils savent ce qu'ils font. » C'est juste pour ça.
Très bien. Quels sont les ouvrages, les livres que tu recommandes pour justement travailler, je sais pas, le narrative design, la conception de jeux vidéo, le marketing ?
Alors, je n'ai quasiment jamais acheté de livres sur le sujet. Je me suis contentée de trouver des articles, tout ça. Sur le marketing, si vous parlez anglais, je conseille très, 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 très fortement howtomarketgame.com. C'est mon gourou. C'est vraiment, il y a plein de conseils. Si vous parlez anglais, vous trouverez tout ce que vous avez besoin là. Et puis, en tant que livre, c'est plus sur le côté administratif que je trouvais intéressant. Il y avait Profession graphiste indépendant de Julien Mouya, qui avait fait une formation chez Abiding Bridge. Et en fait, quand on ne sait pas trop, bah, par exemple, si vous n'avez pas besoin d'un éditeur et que vous êtes en auto-entrepreneur, mais que vous hésitez avec la micro-entreprise et les 1 milliard de trucs qu'il y a, les micro-PNC ou les BIC, ou voilà, enfin, vous ne savez pas, bah, c'est vraiment le livre qui va tout poser clairement. Ok, donc bah, il faut que vous preniez tel statut, et après, pour vos déclarations, vous allez faire tel truc, et voilà, c'est pas la partie la plus glamour.
Je sais effectivement tout ça, malheureusement, à force d'essais et d'erreurs, hein, ça n'existait pas, tous les statuts comme le micro-entreprise. J'avais pris la solution la plus simple à l'époque, artiste-auteur, et en fait on sait pas trop quand on est un peu perdu. C'est pas très très compliqué, mais on peut beaucoup mieux se situer quand on a les bonnes informations. Surtout que ça évolue tout le temps.
Ben, un truc qui est bien, c'est que maintenant, le statut d'artiste-auteur, il comprend les Patreons et tout ce qui est campagne de financement participatif, donc
Ah,
Patreon,
ok.
Kickstarter, Ulule, tout ça, alors qu'avant,
Ouais.
ce n'était pas le cas.
C'est vrai. C'est vrai, j'avais posé la question. J'avais posé la question à un expert comptable, je crois, ou je sais plus. Mais ouais, c'est bon à savoir. Donc, auto-édition et financement participatif. Donc, on peut mettre ça sur le compte, on va dire, le compte d'auteur.
C'est ça.
Ok. Dernière question. À quoi joues-tu en ce moment?
C'est seulement jamais le temps de jouer en ce moment. Ah, c'est clair, quand on a une campagne Kickstarter, on met toute sa vie en pause et on fait que ça. Hein. C'est malheureusement. Non, sinon, je dirais le dernier jeu que j'avais fait, c'était Gilded Shadow, qui est un autre visual novel qui est super bien. Donc, si vous voulez, allez-y. Et j'attends Tears of the Kingdom avec impatience.
Merci, merci à Yael. Merci beaucoup.
Ben, merci à toi.
C'était cool. Merci le chat. J'espère que ça vous a plu. Ce sera disponible en replay et bien sûr sur les plateformes de podcast. Donc, si vous voulez vous lancer dans la création de jeux vidéo, comme d'habitude, rendez-vous sur videogamecreation.fr. Vous avez un guide gratuit pour bien démarrer la conception de jeux vidéo. Après, si vous voulez aller plus loin, j'ai écrit un livre de 400 pages qui explique tout de A à Z, de la conception jusqu'à la publication, commercialisation. Tous les moyens de financer, tous les moyens d'éditer, comment contacter un éditeur, etc., etc. Toutes les questions que se posent pas mal de développeurs indépendants. Donc merci beaucoup, on se retrouve bientôt. Tu vas faire des salons, tu vas faire des événements en France?
Pas trop en fait, je pense que en fait le truc que j'ai remarqué c'est que dans les salons tout ça les gens les jeux narratifs c'est pas trop leur kiff en général donc j'essaye en fait de demander pour aller sur des salons littéraires mais à chaque fois je me fais recaler donc on va voir peut-être quand le jeu sera sorti on aura peut-être un peu plus de
Ouais,
succès je ne sais pas
effectivement. C'est une
mais
question que je voulais te poser. Les salons, c'est propice aux party games, aux jeux d'action, fun immédiat. Les jeux narratifs font forcément plus se poser et rentrer dans l'histoire, comprendre un petit peu l'univers.
Bah, c'est vrai qu'on avait fait pour le salon Animasia, justement, on avait fait une démo hyper courte de 15 minutes, alors que la nôtre, comme j'ai dit, on met presque 2 heures à la faire normalement. Donc voilà. Donc on avait fait une démo de 15 minutes pour donner un peu envie aux gens. Et en fait, c'est vrai que les gens, ils n'avaient même pas envie d'essayer. En fait, c'est ça le truc de rentrer dedans. Alors après, on avait eu, c'était quand même un très bon moment. Hein. Franchement, on avait eu des gens, genre une mère de famille avait ses gamins qui jouaient à Sclash à côté d'un autre jeu accompagné par Abiding Bridge. Elle ne savait pas quoi faire. Je dis, Madame, vous voulez essayer? Et en fait, elle s'est beaucoup amusée. Donc c'était très sympa. Mais c'est vrai que nous, en termes, parce que un salon, mine de rien, ça c'est l'hôtel, le déplacement, le coût du salon, c'est des moments où on est consacré à ça. Donc le ratio gain temps, c'est pas trop ça pour l'instant pour nous. Donc je préfère être là sur Discord et continuer sur les réseaux sociaux et voilà, plus en ligne, on va dire pour l'instant.
Ok, bah sur ces bonnes paroles, on va se souhaiter un bon week-end. Bonne fin de campagne Kickstarter.
Merci.
Merci tout le monde, merci de chat. À bientôt, salut.
Au revoir.